L'Espagne, on le traverse tous les ans. Tous les ans, tous les ans, mais on l'a jamais connu en fait. En fait, on était presque complexé d'être là-bas. On était encore chez nous en France. On allait être à nouveau chez nous au Maroc. Donc c'est pour ça qu'on voulait passer vite l'Espagne parce qu'on n'était pas chez nous. Sur 1200 km, on ne sent pas les bienvenus.
La route du bled, un documentaire de Halima El Khattabi. Deuxième épisode, l'Espagne, la route de l'extrême.
Bismillah, dîné, hayat la christi. Anres mahrab, béré, narna falda. Mais c'est une musique que mon père écoutait tout le temps, en boucle, dans la voiture, oui.
Bismillah, dîné, hayat la christi.
Moi, je ne comprenais pas trop les mots, les termes. Et mon père m'expliquait petit à petit, tous les jours, comme on met 2-3 jours des fois pour aller au Maroc. Donc, on avait le temps d'apprendre la chanson par cœur. Et quand je chante cette chanson-là, je l'ai gardée en mémoire. Je la connais par cœur dans la langue berbère. Ça me fait des frissons partout. Ça rappelle la route, ça rappelle des souvenirs. Et surtout les parents.
Les Espagnols, ils étaient très, très, très durs. Il y avait beaucoup aussi de surveillance policière. Beaucoup de motards sur les routes. Et ils arrêtent pour les contrôles, ils font des PV pour un rien. Ah oui, ils étaient très, très durs. Hein.
En Espagne, on ne parlait pas un seul mot, et même les Espagnols, parce qu'ils étaient un peu durs. Hein. On se défend comme on peut. Agua, per favor, avec les gestes, avec les mains, on demande, on fait juste ce qu'on en veut le manger, et pas de couchon, enfin des trucs simples quoi. Mais on arrive à se comprendre, mais c'était des gens formidables, il leur manquait juste un peu de diplomatie pour communiquer avec avec des gens qui ne parlent pas leur langue.
Vu qu'on apprenait l'espagnol à l'école, en fait c'était le moment dans l'année où on pouvait tester nos connaissances. J'essayais beaucoup plus de parler avec les gens, j'essayais beaucoup plus de me tester. Et j'étais investi d'une mission en fait. J'étais le responsable traversé de l'Espagne et j'étais tout fier en fait de ça.
C'est les premières fois où tu te sens utile. Surtout quand t'as 13 ans, que tu te sens utile sur un projet pareil qui est la route. Bah, du coup, ça gonfle un peu ton ego quoi. Mmh. Et ouais, donc du coup, on faisait pas mal la traduction. Et bah, dès qu'on a commencé à savoir lire les panneaux, là, ça a commencé à nous aider. Ouais.
Se voir les Marocains entre eux, ils s'arrêtent dans les stations, en l'air de repos. Et là, on a l'impression que c'est un petit marché de la Provence, mais espagnol marocain. Ils détalent tout leur. Pas leur bagage, mais à manger, les tapis. Pour certains, ils font les prières entre les voitures. Certains dorment même à côté des voitures, d'autres dans la voiture.
Vu que, bah. Les Marocains, pour la plupart, sont musulmans, et que bah, sur la route, il faut aussi prier. Dans les aires d'autoroute espagnole, bah, ils s'arrêtaient pour faire leurs ablutions, parce qu'ils avaient besoin d'un accès à l'eau courante. Et bah, dans les ablutions, à la fin, on se lave les pieds. Donc, du coup, dans les aires de repos espagnoles, dans les toilettes, tu avais des panneaux d'interdiction qui indiquaient qu'il ne fallait pas mettre les pieds dans le lavabo, il ne fallait pas faire ses ablutions dans les toilettes. Alors, moi, je me souviens d'une époque où, en Espagne, on ne voulait pas nous servir. On s'arrêtait et ils voulaient pas nous servir les gens, tu vois, alors t'étais là, je restais. Peut-être le daron, il veut un café, on était prêts à consommer, mais on était traités comme des pestiférés.
Ouais, c'est ça.
C'était un truc.
C'est
ça. Faut pas confondre le fait que, ouais, on ait pu sentir à un moment le racisme de la part des Espagnols fut un temps. On n'était pas servis. Et ce type de panneau qui va être présent juste parce que bah, certains manquent de civilité et laisse pas le lieu aussi propre que quand ils étaient arrivés.
Après, avec le temps, ça a énormément changé.
Avec la crise.
Avec la crise.
Où les touristes et les gens qui partaient au Maroc étaient tout d'un coup un peu...
Ouais.
On sentait qu'on était comme une respiration pour ces gens-là. Et on était mieux accueillis dans les aires d'autoroute et les restaurants.
les premières années, on se perdait énormément. On fait beaucoup de tours. Il y avait beaucoup de circulation. Les immigrés de la France, plus les immigrés de Belgique et Hollande et toute l'Europe. Il y avait beaucoup de semi-remorques, des grands camions en Espagne. Et c'est vrai qu'on a, trop souffert pendant ces 3 et 4 jours. La chaleur à Cordoba et en Madrid et toute l'Espagne, c'était vraiment le grand four.
En fait, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui passent par Barcelone et ceux qui passent par San Sebastian. C'est là où on traverse la frontière. Nous, on a toujours pris San Sebastian. Et ensuite, on coupait l'Espagne, en fait, vraiment sur toute la longueur. Il y a un truc, c'est que les routes, c'est un capharnaüm.
En fait, une fois qu'on arrive vers Madrid, il faut suivre une certaine route. Et en fait, les numéros de route, ils sont écrits
en
chiffres romains. Et il y avait les novices, les noobs, qui demandaient des conseils. Et mon grand-père disait, faut suivre la nationale Yves. Et la nationale Yves, en fait, c'était la nationale 4. Et en fait, parce que une fois arrivé à Madrid, les routes se croisent, en fait, et on ne sait jamais où partir.
Nous, on sait juste qu'il faut qu'on aille à Algeciras. Mais sauf qu'à Madrid, il n'y a pas marqué Algeciras, on est encore au milieu de l'Espagne. Donc du coup, on ne connaît pas les petites villes qui sont dans le sud de Madrid. Et parfois, on se retrouve sur une autopista, on ne voulait pas, parce qu'on va devoir payer. Alors qu'en fait, on veut garder l'autovia. Et donc du coup, en fait, effectivement, ça a toujours été prendre la nationale Yves. Et à chaque fois, à Madrid, dans la voiture, c'est des embrouilles. Non mais c'est là, non mais c'est là, ouais non, etc. En fait, on est tous là, on est concentrés à Madrid et c'est un bourbier.
À l'époque, ils avaient une carte, quoi. Une carte, la carte Michelin avec le bibendum. Ils arrivaient à se souvenir à peu près de la route, mais ils s'arrêtaient pour reprendre la carte. Il y a les années où on prenait pas l'autoroute, où on passait par la nationale, l'espagnole. C'est normal, c'est des prises de tête. Le papa qui est pas content parce que la maman elle a pas fait le bon copilote. Et voilà, aujourd'hui c'est inimaginable de faire la roue avec une carte du pays. C'est un truc ça incroyable, je pense, pour les générations d'aujourd'hui.
Le signal de savoir si on est perdu ou pas, c'est quand on ne voit plus aucun vacancier, en fait, aucune personne qui était sur la route comme nous, chargée. Et donc, plus on en voit, plus on est content, on se dit, on est sur le bon chemin. Une fois, c'était près de Granada, et c'était la nuit. Et on s'est perdu, en fait, on s'est retrouvé sur les montagnes, il n'y a plus que des champs d'oliviers, parce qu'on sentait à travers la voiture l'odeur de l'huile d'olive. C'était très impressionnant pendant 2 heures à peu près dans cette montagne avec des oliviers et tout. Je ne sais pas s'il y avait une fabrique d'huile d'olive ou j'en sais rien. On sentait que ça, on ne voyait rien, c'est que des champs. Et puis on a tourné, on a fini par retomber comme d'habitude sur notre route.
La musique, en fait, ça occupe une place particulière dans le voyage. S'il y a un truc qui a tourné dans la voiture pendant des années et des années, pendant plusieurs voyages, c'est Tracy Chapman. Le premier album, Tracy Chapman, c'est avec Talking About a Revolution.
Ouais, qu'on a saigné.
Ouais, on l'a écouté, réécouté, réécouté. Il y a Fast Car aussi. Fast Car, ça, en plus, ça rentre parfaitement dans le thème de la route. Et mon père, en fait, il est fan de Tracy Chapman. Et aussi, bien sûr, les cassettes de musique populaire marocaine. Voilà.
Chabi, ouais.
Et dans la cassette Taxi,
ouais.
Donc il y avait quoi, il y avait Asia. Asia, c'était Dini Mac. Dini Mac. Ça, c'est vraiment.
Et puis Akhenaton, après, il avait ses couplets et tout dessus.
Attends, il y avait une chanson, elle m'avait marqué où il parlait de ne rien faire. C'était quoi déjà?
C'était Dini dans le calme. Et
dans les yeux.
De nous vendre d'Ostola
si tu veux. Rire et parler de tout et de rien avec tes frères.
De rien
chercher d'autre à faire que de passer du bon temps
autrement. Pouvoir bloquer pour bosser si ça me prend. Écoute.
Il y avait aussi du rap non fréquentable, genre il y avait du gangsta rap, genre ça parlait de braquage.
Ouais, ça, ouais.
On écoutait ça dans la voiture.
Et en boucle, hein. En boucle, en sans boucle, honte, ouais. Normal. Ouais.
Le rap, moi, c'est une musique qui j'accroche pas. Mais quand vous êtes en voiture, en petit, confiné, vous êtes obligé de l'écouter, j'ai pris goût au rap. Grâce à Ilias. Donc, il m'a fait connaître Kerry James, Youssoupha, Abdelmalik et le groupe IAM.
IAM, quand même, c'est de notre génération.
Et KR, ça, c'est un copain Ilias qui joue du rap.
KR. Il joue du rap.
Mec, t'attends quoi pour me filer le respect que tu me dois? J'ai bouffé un au resto quand il me reste aucune thune, je bois.
Et moi, avant le voyage, je me suis dit, je vais aller à Virgin Megastore. Et je vais m'acheter des CD de trucs que j'ai trop envie d'écouter. Et je vais aussi acheter des trucs que les parents vont kiffer. Et j'ai acheté Jacques Brel. Mais en fait, j'ai encore plus kiffé Jacques Brel que mes parents. Et à tel point que récemment, quand on a fait la route, je leur ai remis ça. Et
les flamands des danseurs sans frémir. Sans frémir au dimanche sonnant. Les flamands des danseurs sans frémir. Les flamands, ça n'est pas frémissant. Je crois que ça donne ça. Si elles dansent, ouais. C'est parce qu'elles ont 20 ans. Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer pour pouvoir se marier. Se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents. Le bedeau et même son éminence. L'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Wow. Ouais.
En fait, la gestion de la fatigue, j'ai pas compris comment c'était possible. Parce que les trajets, surtout quand on roule de nuit, forcément, à un moment, on peut tourner de l'œil, être vraiment fatigué et se laisser prendre par le rythme monotone quand tout le monde dort. Ma mère, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, moi, j'essayais de ne jamais dormir non plus. Et je lui disais, mais c'est bête parce que du coup, vous pouvez pas. Tu pouvais te reposer et tout. Comme ça, lui, après, quand il se repose, tu gères le reste. Et elle me disait, non, parce qu'il fallait que je reste là en permanence pour m'assurer qu'il s'en dorme pas, donc elle lui parlait, elle restait éveillée, elle faisait vraiment du soutien copilote à fond, même si elle pouvait pas conduire.
Il fallait laisser surtout le chauffeur, effectivement le papa qui prend la route, de pouvoir dormir ne serait-ce qu'une heure ou deux. Et là, je me rappelle, en fait, on faisait un truc, c'était qui va monter la garde pendant que les parents dorment, parce qu'on ne sait jamais, hein, on a eu beaucoup d'échos, comme quoi des fois il y a des vols, etc., pendant que les gens y dorment. Donc elle avait toujours peur qu'il arrive quelque chose, et pendant que nous on dormait, elle restait réveillée, à tourner autour de la voiture, jusqu'à ce que... Voilà.
Il a fallu qu'on attende 2018, ouais. Et après 20, 25, en tout cas moi, de mon point de vue, 20, 25 voyages, pour vous peut-être une soixantaine, j'en sais rien, pour s'arrêter dans une ville d'Espagne et visiter. Alors qu'on passe dans un pays magnifique. Enfin, à chaque fois, l'argument, c'est quoi? On a de la route. On veut arriver au bateau, on a peur d'attendre. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'il y a? Le voyage, il est juste plus chiant. Et le truc, c'est que c'est un road trip où, en fait, on ne profite pas de la partie route.
Il y avait aussi l'urgence de quitter l'Espagne parce qu'il y avait les faux barrages, il y avait les faux policiers, il y avait les faux gendarmes aussi.
Tout le monde part avec son cash au Maroc, ou tout le monde part avec ses bijoux. Donc du coup, ils savaient où chercher. Et souvent, les gens, ils se faisaient voler des gros butins en Espagne.
Alors ça, c'est la grande légende. À chaque départ, à chaque fois, on nous dit « il faut faire attention aux faux flics ». Non, mais je dis pas que c'est faux. Ça doit arriver encore moins souvent qu'un accident, je veux dire. Mais en tout cas, nous, on l'a jamais vécu. Mais à chaque fois, dès qu'on nous parle d'Espagne et des risques intrinsèques à la route, on nous parle des faux flics. À tel point que ça a développé une sorte de paranoïa envers les flics espagnols. La grande légende des faux flics.
Ici vous êtes chez vous, wa marhaba bikoum fi bladkoum. Ici vous êtes chez vous, wa marhaba bikoum fi bladkoum.
Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger. Nos centres d'accueil, en France, en Espagne, en Italie et au Maroc, sont à votre service. Ici, vous êtes chez vous.
Ici, vous êtes chez vous.
Marhaba bikoum fi bladkoum.
Qui veut dire en gros bienvenue dans votre pays, quoi. En gros, pour te rappeler que t'es marocain.
C'est des aires d'autoroute où il n'y a que des Marocains. Tous les restaurants, enfin les cafés, c'est des gens qui parlent arabe, qui servent. Tous les panneaux, il y a écrit en espagnol, en français, en arabe. Les Marocains, ils se disent c'est une étape obligatoire en fait sur le voyage. Parce qu'ils se disent c'est la seule aire d'autoroute en Espagne où justement on va pouvoir ne pas se sentir exclu. Ça c'est vraiment, c'est nécessaire de s'arrêter là-bas.
Et du coup on s'arrête et tout d'un coup... Il n'y a que des gens comme nous, les mêmes galères. Des fois, tu regardes les familles, tu te dis « Ah ouais, putain, on dirait nous. » Genre, les parents, ils ont le même âge. Ils ont deux garçons, une fille. Ouais, c'est, ça. C'est nous, mais ils viennent d'une autre ville de France.
Ouais, c'est ça.
Et ils font la même chose, tu vois.
C'est archi vrai.
Les derniers kilomètres, en fait, on les compte. C'est vraiment ça y est, on est tout prêt, tout prêt. Et une fois qu'on arrive, c'est le grand soulagement. Ça y est, on est à côté du bateau. On n'a qu'une hâte, c'est d'être dans le bateau. Et ben, la plupart du temps, c'était pas ça qui se passait.
L'attente du bateau, c'est la grande appréhension. On peut avoir énormément de chance et en fait arriver passer direct. Comme parfois, en fait, on peut attendre 24 heures, quoi. Vraiment, c'est la grande inconnue.
Arrivé à Gibraltar pour prendre le bateau, et là, une année, on nous a bloqués pendant 2 jours et demi. Comme des bêtes, nous ont enfermés dans un parking parce qu'il y avait tellement de monde que les ferries qui devaient faire la traversée n'avaient pas la capacité suffisante pour emmener tout le monde.
On savait que le bateau, c'était la misère. C'est interminable. On espère que ça va être notre bateau. Non, c'est le bateau d'un autre. Monter dans le bateau, c'était... on souffle. Ça y est, c'était vraiment la délivrance, on va dire.
À suivre.
C'est bon, les vacances avant peut-être pouvoir commencer.
Sur arteradio.com.